Merci d'être présent. C'est la dernière rencontre de ce cycle, de, comment on l'appelle, Carrefour 18h maintenant, je ne sais plus trop, avant ça peut être 18h, voilà. Et on reçoit ce soir pour clore ce cycle Bernard Sèvres pour parler de musique, enfin de philosophie de la musique. Bonsoir, je vous présente rapidement pour nos invités, là, si on, pour situer un peu dans le champ universitaire. Vous êtes professeur donc, d'esthétique et de philosophie de l'art à l'Université de Lille. Vous avez été longtemps un professeur, on en parlait tout à l'heure, en Cagne, à Louis Grand, l'institution la plus, j'allais dire élitiste, je suis peut-être un peu méchant, mais en tout cas, disons, la plus symboliquement forte des étudiants en études supérieures. Vous avez publié pas mal de livres depuis une dizaine d'années, j'en cite notamment quatre importants avant celui-là, donc, qui s'appelle L'instrument de musique. Vous avez publié en, je ne sais plus quelle année, La question philosophique de l'existence de Dieu, ça c'est un de vos premiers, ça c'est au début des années 2000, c'est ça ?
94.
94, ah oui, c'est même plus tard. Vous avez écrit un autre livre qui est peut-être d'ailleurs le premier peut-être pilier du travail que vous poursuivez aujourd'hui, qui s'appelait L'altération musicale ou ce que la musique apprend aux philosophes, qui est peut-être un peu votre premier, on y reviendra dessus. Puis vous avez publié plus tard un livre sur Montaigne, dont on parlera tout à l'heure, Montaigne, des règles pour l'esprit, donc un auteur que vous avez suivi, enfin en tout cas étudié de près. Et il y a 2 ans, en 2010 exactement, De haut en bas, philosophie des listes, qui est aussi un autre sujet assez intéressant, mais peut-être on pourra y revenir de cette manière. Alors peut-être quelques mots d'introduction rapidement pour cette rencontre, dire peut-être faire une remarque, mais ça c'est, vous allez j'imagine peut-être la contredire, je ne sais rien. En tout cas, ce qui me semble intéressant, c'est que la philosophie s'est évidemment toujours beaucoup intéressée à la musique. Je veux dire, sans remonter à Platon, qui, je vous le rappelle, faisait de la musique une partie fondamentale de l'éducation, c'était un sujet fort. Aristote, bien sûr. Kant, je crois, l'a beaucoup négligé, parce qu'il n'était pas très musicologue. Mais bon, on peut penser à des auteurs comme Schopenhauer, évidemment, ou Nietzsche, ça va de soi, qui tous les deux, quand même, ont insisté sur le fait que la musique était le premier des arts, un art métaphysique pour Schopenhauer, et même pour Nietzsche, un art dionysia, comme disait, un art total. Donc on sent que la musique est quand même un motif qui
traduit. Sans oublier Descartes, qui a écrit un traité de musique.
Voilà, je l'avais oublié, exactement. Donc on voit bien que la musique est un motif quand même assez central, disons, dans l'histoire de la philosophie. D'une certaine manière, symétriquement, on peut dire que les objets, les choses, les instruments intéressent aussi forcément la philosophie, ne serait-ce parce que précisément les objets ou les instruments sont ce que vous appelez d'ailleurs dans le livre un universel anthropologique. Donc d'une certaine manière, on voit bien que la philosophie, dans toutes ses traditions jusqu'à l'anthropologie, s'intéresse aux instruments. Mais ce qui est évidemment singulier, intéressant peut-être à remarquer, c'est que précisément l'instrument de musique, pour le coup, lui est un objet, enfin un point aveugle, un angle mort de cette réflexion philosophique, d'où finalement l'intérêt de votre travail, c'est que vous comblez un vide, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas une question qui a été très peu abordée, et c'est l'intérêt, l'originalité de votre travail, c'est précisément d'interroger philosophiquement le concept, la notion d'instrument de musique. Donc tout l'objet de votre livre est centré là-dessus. Alors, ce qui semble assez fort dans ce livre, mais là on va en discuter, c'est qu'il s'agit donc de penser l'instrument de musique, comme vous dites, enfin, dans ce que vous appelez dans sa dignité. Mm-hmm. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'est-ce que la dignité d'un instrument de musique ? Vous parlez de sa valeur esthétique, de sa valeur humaine, d'une certaine manière. C'est la question, c'est qu'est-ce que c'est justement un instrument à penser comme ça ? Par ailleurs, vous expliquez bien que l'instrument, enfin, vous essayez de penser l'instrument de musique comme un moyen de la musique, puisque c'est quand même ça l'une des idées fortes, et en même temps, symétriquement, vous essayez de penser la musique aussi à la lumière de l'instrument qui la rend possible, parce que toute la fonction que vous attribuez à l'instrument de musique, c'est précisément de rendre la musique vivante, même de la rendre réelle. Voilà, donc c'est la question, vous appelez ça je crois une condition organologique de la musique. Donc c'est une question qu'on peut aborder, c'est justement comment l'instrument permet à la musique d'être vivante et réelle. C'est quand même une vraie question, parce que je pense qu'elle mérite un éclaircissement d'une certaine manière. Et puis autre idée importante, je pense qu'on va aborder ce soir aussi, qui est un peu centrale dans votre travail, c'est le fait que l'instrument et l'instrumentiste, c'est ça aussi la subtilité, sont chacun constitués de ce que vous appelez deux corps. Mm-hmm. Vous faites référence à la théorie de Cantorowicz, assez célèbre, sur les deux corps du roi, le corps symbolique et le corps organique. Et de sa manière, même si ce n'est pas une théorie que vous appliquez de manière mécanique, en tout cas, elle a inspiré votre travail. Alors peut-être, pour commencer la discussion, ce qui me semble intéressant peut-être à noter tout de suite, parce que c'est une question que vous abordez assez rapidement d'ailleurs dans votre livre, c'est que vous expliquez que la musique est le seul art à user d'instruments. Et ça mérite peut-être un éclaircissement. Dans quelle mesure, par exemple, on peut estimer que le cinéma, le cinéaste avec sa caméra, le photographe avec son appareil, le peintre avec son archer, par exemple, ne sont pas pour vous considérés comme des instruments? Tout simplement peut-être parce que l'instrument est détaché de la perception de l'œuvre elle-même. Expliquez-nous en quoi pour vous la musique est le seul art à utiliser un instrument.
Alors c'est une idée très simple et un peu difficile à expliquer, ça peut paraître paradoxal. Tous les arts usent d'instruments techniques, de moyens techniques, sauf peut-être la poésie, si on la lit silencieusement, encore a-t-il fallu l'écrire. Bon, enfin, les arts usent d'instruments techniques et de moyens techniques, et parfois extrêmement compliqués, extrêmement sophistiqués, comme au cinéma. La différence, c'est que une fois que le peintre a terminé sa toile, il pose le pinceau, il peut le détruire, il n'en a plus besoin. La toile existe indépendamment du pinceau qu'il a peint. De même, une fois que le film est fait, monté, il y a besoin de l'appareil pour le voir naturellement, mais le film est fixé définitivement. Ça ne bouge plus. Et on pourrait multiplier les exemples. Il n'y a qu'en musique, je crois, que l'œuvre est indissociable dans son déroulement temporel de l'usage permanent d'instruments. Aussi de la voix humaine, s'il y a de la voix, naturellement. A besoin, pour exister comme œuvre musicale, d'être effectivement jouée. Alors évidemment, si elle est enregistrée, c'est autre chose. Mais si elle est enregistrée, elle a été jouée avec des instruments. Mais l'œuvre de musique vraiment vivante, celle qui n'est pas enregistrée mais jouée, a besoin en permanence, tout au long de son déroulement, d'instruments, et à chaque fois qu'elle est jouée. Et je crois qu'il n'y a pas d'art autre que la musique qui soit dans cette situation d'avoir besoin d'instruments en permanence. Le comédien, nous sommes dans un théâtre, le comédien peut se servir d'accessoires, mais il peut aussi s'en passer. La situation n'est pas comparable avec celle de la musique.
Peut-être un vidéaste, par exemple, qui fait une installation, on pourrait imaginer peut-être que l'instrument est consubstantiel même de...
Non, parce que l'installation est fixe, tout a été enregistré. Tout a été enregistré. Alors, il peut exister dans l'art contemporain des types de propositions artistiques dans lesquelles il y a un peu de live, éventuellement avec... auquel cas, il y a peut-être une imitation de quelque chose de musical. Ça me paraît tout à fait marginal, mais une vidéo comme telle, et même une installation où il y a de la vidéo qui tourne, elle tourne, mais elle est enregistrée.
Donc c'est quand même un constat un peu initial, quand même une idée forte que vous inscrivez dès le début de la réflexion.
Voilà.
C'est ce qui définit finalement, au fond, le mieux, c'est ça.
Je trouve que c'est l'originalité de la musique que d'avoir besoin d'un instrumentarium qui est mis en œuvre exactement en même temps, dans la même durée et en parallèle avec l'existence de l'œuvre musicale.
Peut-être autre précision, j'allais dire technique, pour comprendre le travail, c'est que vous parlez de la musique, mais pas de toutes les musiques en l'occurrence, et d'ailleurs de pas tous les instruments non plus. Vous mettez de côté dans votre réflexion vous concentrez sur les instruments et les acoustiques.
Exactement. Voilà.
Donc expliquez-nous ça, pourquoi c'est important pour vous de se concentrer sur ce type-là d'instruments uniquement.
Alors j'ai le sentiment que ce sont les plus négligés, les instruments acoustiques. Qu'il y en a environ 12 000, mais on pourrait aussi en compter 100 000. 12 000. C'est le nombre d'entrées qu'il y a dans le New Grove, le Dictionary of Musical Instruments, c'est-à-dire la grande somme des instruments de musique actuels. Il y a 12 000 entrées, il y a 12 000 instruments, 2 000 instruments occidentaux, 10 000 instruments non occidentaux. Chacune de ces entrées couvre en réalité beaucoup d'instruments différents. Par exemple, il y a une seule entrée harpsichord, clavecin, qui fait 40 pages, et des tas de clavecins différents sont développés. On pourrait aussi bien dire que le clavecin a un clavier, a deux claviers, a trois claviers, avec tel, tant ou tant de jeux, c'est autant d'instruments différents. Là, il y a une part de convention. Donc 12 000, c'est le chiffre minimum. L'instrument générique, je veux dire, de type d'instrument. Et j'insiste beaucoup là-dessus, d'abord parce que c'est fascinant, ensuite parce que c'est immaîtrisable. Personne ne connaît les 12 000 instruments. Et enfin, surtout parce que le nombre d'instruments fait partie de l'essence de l'instrument pour moi. Ça, c'est une idée à laquelle je suis très attaché. Les objets techniques sont définis par leur fonction et d'après l'usage qu'on fait d'un marteau, d'un tournevis, la forme, on détermine la forme d'après la fonction. la forme, le matériau, etc. L'instrument de musique n'a pas de fonction à proprement parler. Il a une fonction de faire de la musique ou des sons qui sont considérés comme musicaux dans la société considérée, mais ces sons peuvent être extraordinairement variés. Et par conséquent, la fantaisie humaine est, pour ainsi dire, libre quand elle fabrique un instrument. Elle n'est pas liée par une fonction déterminée à accomplir. Donc on peut inventer beaucoup plus d'instruments que de tournevis, de type de caméra, de voiture ou d'avion. Parce que, j'allais dire le cahier des charges, c'est une expression un peu banale, et bon, enfin bref, de l'instrument est extrêmement réduit. Donc l'humanité peut inventer des dizaines de milliers d'instruments, elle continue à le faire.
Elle continue à le faire.
Continue à le faire.
On le sait, ça, par exemple, mesure ça ou pas?
Les instruments acoustiques, moins, mais l'inventivité organologique s'est tournée du côté des instruments électroacoustiques. Où on en invente, mais on en invente, je ne sais pas, moi, 100 par mois.
Ah oui.
Dont beaucoup dureront, je dis 100 par mois, ça, je n'ai pas mesuré. Hein.
Ouais, ouais.
Mais quand on regarde un peu sur Internet ou dans les revues, on invente des tas d'instruments dont beaucoup ne dureront pas, ne vivront pas, hein, mais ont été inventés. Alors pourquoi, ça me permet de rebondir sur la première question, pourquoi je m'intéresse exclusivement à l'instrument acoustique, donc il y en a déjà 12 000 au bas mot, hein, parce que ce sont les plus négligés. Les instruments électroacoustiques intéressent énormément les philosophes, les musiciens, les théoriciens de toutes sortes, et bien entendu ceux qui les fabriquent. Et on trouve sans problème des dizaines et des centaines d'ouvrages. Vous allez sur le site de l'IRCAM, hein, bon, et vous trouvez un nombre d'informations considérables sur ces nouveaux instruments. Et c'est tout à fait normal et c'est très, très excitant. Mais
donnez-moi un exemple de ces instruments très analysés aujourd'hui. Ce serait quoi, par exemple? Quels sont les instruments qui aujourd'hui font l'objet comme ça d'attention précise?
Alors, il y a un instrument qui m'intéresse beaucoup, qui est le thérémine, qui est un instrument ancien déjà, qui était inventé dans les années 20 par Léon Thérémine, qui est un acousticien et musicien russe. Et c'est un instrument dont on joue sans le toucher. Puisqu'il a deux antennes, une verticale et une horizontale, ça joue sur la modulation des fréquences, et d'après la distance, c'est ce qui se passe d'ailleurs avec un poste de radio en modulation de fréquence, quand on s'approche, il commence à faire autre chose que ce qu'on voulait. Bon, c'est le principe qu'a utilisé Thérémine. Le Thérémine a été utilisé, ensuite il a disparu, et maintenant il revient un peu à la mode, et on en fabrique, plus moderne, plus efficace que ceux de 1930 plutôt. Bon, ça c'est un instrument. Il y a tous les instruments de la lutherie électroacoustique, c'est-à-dire avec un mixage, une production synthétique des sons. Il y a ce qu'on appelle bizarrement les instruments aphones, qui sont des interfaces en réalité entre la forme d'un instrument traditionnel, comme mettons une clarinette, et puis qui est rattaché à logiciels qui lui-même commandent, des haut-parleurs, etc., qui peuvent donner des sons qui sont tout à fait différents. Par exemple, vous pouvez jouer de la clarinette, ça vous donne un son de violoncelle.
Ouais.
Mais vous aurez les doigtés de la clarinette. Bon, c'est saisissant.
Hein.
C'est tout à fait saisissant.
Et
puis vous avez tous les synthétiseurs, vous avez toutes les... Voilà.
Donc il y a une production théorique très forte autour de cette famille-là.
Alors il y a une production technique, une production musicale et une production théorique très forte.
D'accord.
Et vous avez tous les instruments qui sont des capteurs de mouvement, c'est-à-dire d'après les mouvements que vous faites, j'évoque la biobuse, je crois, dans le livre, il y en a vraiment une grande quantité qui repose sur le principe, vous avez des capteurs sur les mains, sur les cuisses, sur ce que vous voulez, et d'après les mouvements que vous faites, ça détermine des sons qui vont être diffusés par haut-parleurs, évidemment, hein. Qui peuvent être là aussi de toute nature.
D'accord.
Et donc tout ça relève d'un instrumentarium électroacoustique très complexe, hein. Alors dont je ne m'occupe pas.
Voilà, vous ne m'occupez pas.
Donc, parce que beaucoup de gens s'en occupent.
Voilà, donc vous.
Ces instruments n'ont pas besoin de moi.
Donc définissez votre champ à vous alors.
Oui.
Expliquez-nous comment vous le circonscrivez.
Ah ben c'est très facile. Les instruments dont je m'occupe, c'est ce qui fonctionne quand l'électricité est coupée. Je ne peux pas dire mieux. Tout instrument qui fonctionne uniquement avec l'énergie du corps humain est un instrument acoustique.
Bon.
Voilà.
D'accord.
Je peux pas mieux dire.
Ça en fait beaucoup quand même.
Ça en fait au moins 12 000.
Ouais.
Donc la guitare sèche relève de mon corpus, si j'ose dire, et la guitare électrique, non. C'est pas le même son, hein. C'est pas le même instrument, hein. C'est pas du tout la même chose. Hein.
Mais c'est pas la même chose, on le comprend bien, nous, comme auditeurs.
Oui.
Mais en quoi c'est très différent pour un philosophe? C'est ça la question, c'est comment, quelle distinction vous faites entre la guitare électrique et la guitare sèche quand vous réfléchissez justement, précisément à la philosophie de la musique.
La guitare électrique est un instrument amplifié. À partir du moment où il est amplifié, le rapport au son ne va pas du tout être le même. Il pourrait être amplifié dans des proportions considérables, par exemple. Et le musicien aura un contrôle du son, non seulement par sa manière de jouer l'instrument, mais par des dispositifs annexes, qu'il peut également contrôler d'ailleurs, mais qu'il peut contrôler autrement que simplement par sa manière de pincer les cordes. Donc ça relève déjà d'un régime assez différent. Mmh. Alors, et encore, je prends la guitare c'est là où c'est le plus proche, hein. Ouais. Bien sûr. Hein. Mmh. Les autres instruments, il n'y a plus de... voilà.
Est-ce qu'on peut revenir peut-être avant aussi de poursuivre sur la généalogie de cette réflexion, c'est d'où elle vient, comment vous êtes venu à vous intéresser, vous, spécialiste, enfin, professeur de philosophie, à Louis Grand, d'histoire de la philosophie, grand spécialiste de Montaigne, comment on arrive à s'intéresser soudainement à la musique, et en tout cas notamment à cette question-là, qui est, il me semble, mais à vous de nous dire oui ou non, assez peu donc justement déployé dans le paysage de la philosophie contemporaine, puisqu'il n'y a pas tellement de livres assez connu en tout cas sur ces questions-là. Comment ça surgit en vous? Est-ce que c'est le mélomane qui a pris le pas sur le philosophe? Comment ça s'est passé? Parce que vous êtes mélomane, c'est important de le dire quand même. Enfin, vous n'êtes pas musicien.
Oui, je ne suis pas musicien. Enfin, non, mais, je suis pas musicien au sens où...
Professionnel, mais vous jouez de la musique.
J'en joue pas très bien. Mais disons qu'il y a au point de départ une passion personnelle. Les instruments, une passion. J'aime les instruments. Bon. Donc quand j'en vois, j'aime les toucher si je peux. Voilà, j'aime les instruments, j'ai toujours aimé ça, c'est une passion comme ça. Ça, c'est la partie, disons, à la fois biographique, anecdotique, et puis qui est le plus directement liée aux instruments. Bon, j'ai joué de quelques instruments, j'aimais très bien, mais suffisamment pour aimer ça et m'intéresser, être un peu fasciné par ça. Le deuxième point, c'est l'altération musicale, un livre que j'ai donc publié, vous l'avez rappelé, en 2002, aux éditions du Seuil, comme le livre présent, un livre qui reparaît.
D'accord,
en même temps, et où j'ai pris une décision méthodologique qui a parfois pas très bien été comprise, mais j'ai valorisé la musique instrumentale.
Là ?
La musique instrumentale. Mmh. Pourquoi ? Parce que j'essayais dans ce livre, l'altération musicale, il y a 10 ans donc, de saisir ce que j'appelle la force propre de la musique, ce qui est la manière propre pour la musique de faire passer le temps, hein. Comment le temps passe, bon, le temps musical, comment le temps se construit, quel type d'affect la musique peut produire, etc. Et pour faire cette recherche, je me suis dit qu'il fallait prendre un type de musique qui soit pur, j'entends pur au sens chimique du terme, c'est-à-dire un type de musique qui ne soit pas mélangé avec d'autres forces, comme par exemple le langage, comme c'est le cas à l'opéra, comme c'est le cas dans le lied, dans la chanson, bon, ou qui ne soit pas mélangé avec des pratiques sociales trop codé comme la danse, par exemple. Bon. Tout simplement parce que méthodologiquement, je trouve plus simple d'examiner un type de musique où la musique est seule avec elle-même qu'un type de musique où la musique doit composer avec des fonctions politiques, religieuses, des textes littéraires, des livrets d'opéra, etc. Et donc, je suis tourné vers la musique instrumentale. Pour cette raison-là. Hein. Disons que l'idéal pour moi, pour cette enquête, hein, il y a 10 ans, c'était une pièce de musique purement instrumentale, sans titre, parce que dès qu'il y a un titre en langue naturelle, ça vient perturber, complexifier un peu la réception de la pièce, peut-être même la manière dont on la joue. Donc sans titre, sans rien. Hein. Sonate, mi bémol, opus 3. Parfait. Voilà. Je ne parle pas énormément de l'instrument de musique, un petit peu quand même, mais pas énormément dans ce premier livre. Mais d'une certaine façon, depuis 10 ans, je n'ai fait que creuser davantage. Ça m'a amené assez naturellement à me dire, mais l'instrument de musique, on ne le pense pas dans la philosophie classique. Mmh. Enfin, même dans la philosophie pas classique, d'ailleurs. Mmh. L'instrument de musique acoustique, celui qu'on fabrique avec son corps, ses doigts, sa bouche, voilà, on ne le pense pas.
Mais ça, vous avez lu des textes quand même qui vont en lire tout à l'heure ce soir, mais qui vous ont un peu permis d'avancer dans justement dans cette réflexion-là ou...
Ah bah bien sûr, des textes de musicologues, d'ethnomusicologues, notamment André Scheffner, hein, qui est le grand fondateur de l'ethnomusicologie en 1936, qui a publié le livre qui fonde vraiment cette nouvelle science. On réfléchit aux instruments depuis très longtemps. du côté des musicologues. Bon. Mais André Scheffner, dans cette œuvre monumentale et fondatrice, il a travaillé en Afrique hein, comme ethnologue, ouvre un champ de réflexion sur l'instrument de musique.
Peut-être qu'on peut lire du coup le texte.
Oui, bien sûr. Hein, bien sûr.
Vous regarderez Montaigne après. Attendez.
Voilà.
On voulait lire un texte de Montaigne, mais peut-être Montaigne, on gardera peut-être pour la fin du coup. Alors, vous nous rappelez juste en quelle année il a été publié ce
livre ? Donc, André Scheffner, Origine des instruments de musique, voilà. Virgule, introduction ethnologique à l'histoire de la musique instrumentale.
1936. Pouvons-nous définir le terme d'instrument de musique ? Autant peut-être nous demander s'il n'existera jamais une définition de la musique qui soit précise et valable en tous les cas, qui réponde également à toutes les époques et à tous les usages de cet art. Le problème des instruments ne touche-t-il pas à celui des limites de la musique ? Un objet est sonore, à quoi reconnaîtrons-nous qu'il est musical ? Pour quelle sorte de qualité la musique le mettra-t-elle au rang de ses autres instruments ? Mais ces derniers même, la musique en fait-elle bien ses instruments ? Tend-elle à réduire les écarts naturels de leur jeu, à régulariser celui-ci ? Ou bien la pratique croissante des instruments ne l'a-t-elle pas détournée d'imaginer au-delà de leurs imperfections ? Et la musique n'est-elle pas partout qu'un produit de leur hasard ? Quel mode de relation s'établit-il ainsi entre la musique et les objets sonores ou bruyants dont elle provoque l'emploi ? De combien leur est-elle débitrice ? Est-elle faite de tous les sons, de tous les bruits qu'ils peuvent produire ? Ou nous n'aurions pas restreint le nombre et le registre des instruments aux seuls qui nous paraissent le mieux figurés, ce que nous appelons musique ? S'est-elle constituée selon la disparate de tous les procédés sonores et se reconnaît-elle auprès de chacun d'eux ? Ou bien est-ce l'exemple de quelques-uns, réputés plus musicaux, qui a limité le choix de tous ? Bref, la musique est-elle l'œuvre de ces instruments ou n'ont-ils été construits que selon son image ? Alors, en quoi ce texte vous semble fondateur, comme ça, de la réflexion ethnométhologique sur la musique ?
Parce qu'il est constitué presque exclusivement de questions. Mm-hmm. Voilà un homme qui a travaillé une bonne partie de sa vie sur le terrain, qui a décrit, analysé des dizaines, des dizaines et des dizaines d'instruments non occidentaux, qui a proposé une classification d'instruments qui a cours aujourd'hui en concurrence avec d'autres. Bon, ça c'est un problème assez compliqué, celui de la classification des instruments acoustiques, et qui, voulant définir l'instrument, dit « mais au fond, je ne sais pas ». Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de renvoi permanent de l'instrument à la musique et de la musique à l'instrument. La musique, qu'est-ce que c'est ? L'instrument, qu'est-ce que c'est ? On tourne en haut. Et par exemple, il a beaucoup insisté sur le fait que l'instrument n'était pas toujours fabriqué pour être facile à jouer, que l'instrument n'était pas toujours construit pour qu'on élimine les bruits parasites, que parfois le luthier, le facteur d'instrument, laissait délibérément des petits ratés, mais qui pouvaient être exploités ensuite musicalement dans son instrument. Tout ça, il parle d'instruments africains essentiellement, hein. Ou asiatique, sur lesquels il a aussi travaillé. Et donc, il casse une image un peu lisse, un peu soft, un peu bien léchée de l'instrument qu'on peut avoir dans l'Occident aujourd'hui, et surtout qu'on peut avoir quand on écoute de la musique classique enregistrée, c'est-à-dire, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais la musique classique enregistrée, c'est-à-dire déformée, lissée, est complètement artificielle en réalité. Hein. Mm-hmm. Quand Karajan enregistre la fin de Beethoven, on sait que c'est entièrement truqué. C'est-à-dire que truqué, il a le droit. Hein, c'est pas du tout un reproche que je lui fais. Hein. Mais il a des canaux, il augmente ici les basses, il met de la fausse réverbération. Tout le monde fait ça. Hein. Tout le monde fait ça aujourd'hui. Même dans la musique live, au moment avant d'être pressé, le disque. Bon. Alors, je dis Karajan parce que c'est un cas.
C'est un travail de production, c'est une dimension essentielle de la musique aujourd'hui aussi.
Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que quand on écoute la musique classique essentiellement enregistrée, on a une musique qui est complètement contrôlée, complètement propre, dont on a ôté tous les petits gratouillis, tous les petits ratés, tous ces petits effets fâcheux qui, pour moi, font partie de la vie de la musique, mais qui sont gommés. C'est complètement léché. Si on n'écoute que ça, on finit par avoir une hiérarchie fausse de l'instrument.
Glenn Gould, quand il faisait ses variations Goldberg de Bach, c'était une prise enregistré.
Mais pas du tout. Non, mais pas du tout. Pardon. Glenn Gould, il trafique autant que.
Ah, mais regarde. Je pensais que c'était assez brut.
Ah non, 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 non. Vous regardez le film de Bruno Mont-Saint-Jean.
Ouais, ouais,
Bruno Mont-Saint-Jean,
ouais.
Excusez-moi. Ouais. Et on voit Glenn Gould qui est comme ça, là, penché derrière la console où il y a le gars. Il dit là, je veux la piste 2. Là, vous mettez plus de piste 4. Là, ôtez de la piste 1. C'est tout aussi trafiqué, entre guillemets, que. Sauf qu'il cherche un son qui n'est pas du tout celui qu'il cherche à Carrière. Mais c'est pas du live brut de décoffrage, hein, pas du tout. Hein.
Non, c'est, vous insistez beaucoup dans le livre, en effet, sur cette dimension du live, parce que pour vous, la musique n'existe que déployée précisément.
Ah non, non, elle existe aussi. Les symphonies de, on peut beaucoup aimer les symphonies de Beethoven enregistrées et puis ensuite artificialisées par Carrière. Hein. Je conteste pas du tout le droit des chefs d'orchestre, des clavecinistes, etc., à bricoler leur truc. Hein. Et c'est de la musique. Mais si on veut saisir la musique dans sa force native, bah, il faut en jouer soi-même, bon, ou aller au concert. Et entendre des gens jouer bien ou mal, d'ailleurs, là, enfin, bien de préférence, mais voilà. Voilà. Et là, on entend. Moi, j'aime bien qu'il y ait une fausse note dans un concert. Mm-hmm. Je le dis, pas plus d'une, hein, mais une fausse note. Parce que, avec les enregistrements, est perdue la possibilité de la fausse note. Quand il y en a une, on l'efface. Bon. Voilà, par une sorte de Photoshop sonore, quoi. Bon. Au concert, il peut toujours y avoir une fausse note. Et je décris une expérience que j'ai vécue il y a quelques années au Philharmonique de Berlin, où effectivement, une fausse note, bah, transfigure tout. Il aurait mieux valu qu'elle ne soit pas là. Mm-hmm. Mais ça donnait une intensité de force vivante à la musique. En l'occurrence, c'est la 5e symphonie de Mahler. Parce qu'il y avait voilà, la fausse note est possible.
D'ailleurs, les transformations entre guillemets du marché de la musique depuis une dizaine d'années avec le téléchargement et tout ça, enfin la crise de l'industrie du disque, a d'ailleurs d'une certaine manière reboosté un peu l'importance du concert aujourd'hui. C'est que maintenant aujourd'hui tous les musiciens, enfin pas que dans le classique, mais aussi évidemment dans la musique plus contemporaine, ont besoin du concert. Enfin maintenant il y a d'ailleurs il y a un public extrêmement massif sur les concerts, c'est même impressionnant. Donc on sent que la musique encore aujourd'hui est vraiment, vraiment aussi. Enfin, l'aspiration à la musique musicale passe par le concert.
Ah, je pense tout à fait. D'ailleurs, c'est frappant dans le rock, je ne suis pas spécialiste du rock, mais.
Le rock, c'est une évidence. Les musiciens ne gagnent leur vie que par ça, d'ailleurs, aujourd'hui.
Voilà, et pourtant, si on en croit mon collègue Roger Puivet, enfin, qui avait ce beau livre, là, sur la philosophie du rock, le rock existe d'abord comme musique enregistrée. C'est un artefact enregistré. Mais les musiciens ont néanmoins besoin, pour avoir pressé le disque, formule un peu ancienne, presser le disque, mais on comprend, de jouer aussi en public. Il y a des raisons économiques, certainement, et financières, mais il y a aussi quelque chose de plus vital.
Revenons peut-être sur la notion de dignité. Penser l'instrument dans sa dignité. Essayez de nous expliquer ce que vous entendez par là.
Oh, c'est un grand mot, dignité. Mais d'abord, je pense que le travail est digne, que les instruments du travail sont des choses dignes. Dignes parce que c'est parti de. Enfin, je ne veux pas citer Marx, le travail est l'essence de l'homme. Bon,
non, mais
je ne pense pas forcément ça.
Vous savez souvent Richard Sennett qui a travaillé sur la main, sur l'artisanat.
Voilà, comment dirais-je, l'instrument, tous les instruments, je ne parle pas de la musique là, tous les instruments sont dignes deux fois. Une fois parce qu'ils servent à travailler et imprimer la marque de l'homme dans la matière, bon. Une autre fois parce qu'ils ont été inventés et qu'ils expriment l'intelligence humaine, c'est Hegel disant, un clou contient plus de spiritualité que toute la nature parce que le clou a été inventé par l'esprit humain et pas la nature. Bon, c'est une phrase un peu provocatrice, mais je trouve qu'elle a quelque chose de vrai. Donc, tout instrument, tout objet technique a cette dignité de permettre une prise sur la nature et d'avoir été inventé par l'esprit humain. Premier point. Donc, l'instrument de musique aussi. Alors, l'instrument de musique a une dignité particulière, ni plus ni moins que les autres. Hein. Je ne dis pas qu'un violon est plus digne qu'un avion en réaction. Hein. Bon, mais il est digne de manière particulière parce qu'au fond, il ne sert à rien, il ne laisse pas de marque dans la nature, justement. Il laisse de marque dans la sensibilité, dans l'histoire, mais il ne transforme pas la matière, puisqu'il joue des sons qui vont s'évanouir aussitôt que jouer. Donc il y a quelque chose de particulièrement énigmatique dans le travail du luthier, du facteur qui fabrique des objets très compliqués, souvent inventés avec beaucoup de tâtonnements, et dont les acousticiens ne savent même pas aujourd'hui complètement rendre raison, rendre compte, hein, du point de vue de l'acoustique scientifique. Ces instruments, bon, qui peuvent être très beaux en eux-mêmes, mais ils ne sont pas faits pour être beaux dans une vitrine, ils sont faits pour être joués. Et quand ils sont joués, ils produisent soit quelque chose qui disparaît tout de suite. C'est admirable, non? Moi, je trouve ça admirable. Voilà la dignité de l'instrument.
Et vous parlez beaucoup de, au-delà même de la dignité, de la dimension érotique de l'instrument. C'est-à-dire que, enfin, la dimension érotique, en tout cas, entre l'instrumentiste et son objet.
Érotique, j'en parle pas tant que ça. Ça ne me dérange pas. Hein, mais...
c'est peut-être moi qui le récite comme ça, mais enfin, quand vous parlez du toucher, de la sensualité, du fait qu'un instrumentiste prend en main, je veux dire, son instrument. Voilà, il y a quelque chose d'érotique quand même dans la relation.
Ah oui, on a un sens très large d'érotique.
Ouais, bien sûr, bah oui.
Voilà. Ah oui, il y a... Alors, en effet, j'assume à ce moment-là, et je le disais d'ailleurs tout à l'heure, en disant effectivement, à ce moment, on a envie de le prendre, on a un peu peur de lui faire mal d'ailleurs, de l'abîmer, et puis envie de voir comment il réagit, comment il résonne, et comment se construit le corps à corps entre le musicien et l'instrument. Oui, alors effectivement, là, il y a une sorte d'érotisme. Et de ce point de vue-là, le thérémine dont on joue sans le toucher est une sorte d'instrument janséniste.
Justement, en parlant de corps à corps, peut-être on peut en venir un peu à un des points un peu centraux de ce travail, c'est votre théorie des deux corps de l'instrument et de l'instrumentiste. Qu'est-ce que c'est assez difficile, à éclairer, mais vous parlez du corps organique et, j'allais dire, symbolique. À la fois de l'instrumentiste et de l'instrument. Parce qu'en fait, vous définissez quatre corps.
Il y a quatre corps.
Et donc, ça fait une transaction entre tous ces corps-là pour fonder un peu. Expliquez-nous ça.
Il y a quatre corps. C'est pas trop compliqué. l'instrument a un corps naturel qui est un corps physique. Bon, il sort des mains de luthier, il a un corps physique. Ça veut dire qu'il a toutes sortes de propriétés physiques, on peut le casser, on peut taper dessus, on peut produire des sons musicaux si on sait en jouer, on peut produire des sons non musicaux. C'est ça le corps physique, c'est l'ensemble de ses propriétés, sa résistance à l'humidité, sa solidité, le fait que le cheval va pas casser, des trucs comme ça, et puis les sons qu'on peut produire. Si je prends un violon, je tape dessus, voilà, c'est son corps physique. Et puis il a un corps musical. Le corps musical, c'est le même objet, mais en tant qu'il joue les sons que je veux qu'il joue. Par exemple, le concerto de Mendelssohn. Bon, et à ce moment-là, il ne produit que les sons que je veux. Je peux aussi improviser dessus, hein, peu importe, hein, le type de son. Mais il ne produit que les sons que je veux. Et apprendre à jouer d'un violon, ce qui est toute une opération assez longue. Richard Sennett dit qu'il faut 10 000 heures, ce qui fait 3 heures par jour pendant 10 ans. Bon. Pour en jouer, mais niveau professionnel. Hein, bon. Mais apprendre à jouer d'un violon, c'est construire dans le corps physique du violon son corps musical. Bien. Mon côté, j'ai un corps organique, bon, qui est à la fois naturel et puis culturel, hein, bon, produit par la société, etc. Enfin bref, j'ai un corps organique. Et si je décide de jouer du violon, mettons, si je décide d'apprendre, il faudra que je construise dans mon corps organique un corps musicien, en habituant, enfin je ne joue pas de violon, hein, mais alors, bon, du basson, mettons, parce que j'en ai joué à une époque de ma vie, il faut apprendre à souffler dans l'anche, ce qui fait mal aux lèvres, il faut prendre les bonnes positions de doigté, il faut se tenir d'une certaine manière, il faut prendre des habitudes corporelles et construire un corps musicien au sein de son corps organique. Alors des fois ça lâche, et alors les deux peuvent lâcher. Alors, là aussi je retrouve la fausse note, qui est un objet qui m'intéresse beaucoup. Une fausse note, c'est quand l'accord entre le corps musicien construit dans le corps organique de l'instrumentiste et le corps musical construit à partir du corps physique de l'instrument, quand cet accord se défait pour telle et telle raison. Et donc là on a une fausse note, on a un canard, on a un plouf, on a quelque chose qui ne va pas. Ce qui veut dire que le corps musicien est toujours construit sur le corps organique de l'instrumentiste, lequel peut toujours pousser. Ça peut être la fatigue, tout simplement, un doigt qui glisse, n'importe quoi. Hein, bon. Et le corps musical de l'instrument est toujours construit à partir de son corps physique, qui est toujours là. et qui peut parfois une corde casse, ça arrive. Hein. Un concert de quatuor, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. J'aime beaucoup les quatuors, de voir une corde cassée. Enfin, et puis donc ça s'arrête. Et puis pendant, il faut 10 minutes à peu près aux musiciens pour aller remonter la corde, réaccorder. Et puis on recommence, ça arrive. La corde qui casse, c'est le corps physique de l'instrument qui proteste, qui rappelle qu'il est là. Le corps, voilà. Voilà les quatre corps.
Comment ça vous définissez l'entrelacement justement de ces quatre corps, enfin, comment vous définissez la scène précisément musicale entre tout ça, enfin,
c'est la longue préparation de l'apprentissage, de la répétition, faire ses gammes, s'entraîner, répéter, apprendre, dompter la bête, la bête étant l'instrument, et puis ça c'est toute la préparation très longue, et puis il y a le jeu. Les quatre corps sont en phase, pour ainsi dire. Bon. Ça peut être un miracle. Les musiciens professionnels, les virtuoses, ils arrivent à tenir ça chaque fois qu'ils jouent.
Comme spectateur.
C'est le côté sportif de la chose.
Comme spectateur dans le public, quand vous allez au concert, vous allez souvent. Vous êtes très attentif à tout ça, à ces jeux-là. Oui. Vous observez de près, presque comme un sociologue, enfin comme un ethnologue, presque.
Non, pas comme un ethnologue, parce que je n'essaie pas de faire des comparaisons. Mm-hmm. Je ne vous dis pas, tiens, celui-là, il fait comme si. Bon. Non, mais plutôt parce que je rattache sans cesse la musique que j'entends aux quatre corps qui la produisent.
À votre outillage théorique, un peu, quand même.
Pardon ?
Un petit peu,
mais ça ne gâte pas du tout le plaisir. Hein.
Non.
Pas du tout. Pas plus que quand on entend une sonate se dire, tiens, le thème revient à la dominante, ça ne gâche pas du tout le plaisir. Mais j'y pense pas de manière.
Peut-être que ça le redouble,
mais c'est un arrière-fond. Oui, tout à fait.
Ouais.
C'est un arrière-fond, disons. Donc
vous observez très précisément tout ce qui se passe sur scène.
Non, je suis pas. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Puis parfois il y a des gens qui sont bizarres. On voit dans les concerts de musique de chambre, parfois. Ou quand on voit jouer Facile Zek, je ne sais pas comment on prononce, le pianiste turc que j'aime beaucoup, mais il fait un grand numéro, un grand spectacle. Bon, là, il fait exprès qu'on voit sa manière de jouer. Mm-hmm. Mais certains, sans le chercher, ont des attitudes corporelles très étranges.
C'est intéressant, vous pourriez faire une sorte d'autre cartographie du corps des instrumentistes, parce que là aussi, il y a une histoire à raconter, j'imagine.
Bien sûr.
Vous avez, il n'y a pas de typologie un peu évidente
Il y en a peut-être, moi je ne connais pas.
Vous les connaissez pas?
Non.
C'est pas notre travail, ça. C'est pas notre...
Peut-être.
Alors, vous vouliez qu'on lise un autre texte. Son nom m'échappe avec vous. Voilà. Je ne les connais pas du tout. De Boris Scholzer et Mariana Skriabinets sur le temps musical. Expliquez-nous. En quoi ce texte qui s'appelle Problème de la musique moderne, qui était paru chez aux éditions de Minuit en 1959.
Oui, c'est un grand livre. Ouais. Boris de Scholzer, qui est un russe, comme son prénom l'indique, qui s'est établi en France après la révolution de 17, qui était beau-frère d'Alexandre Scriabine, le compositeur, et Marina Scriabine, la fille d'Alexandre Scriabine, donc la nièce de Boris de Scholzer. Alors, Boris de Scholzer a écrit. Dans les années 40, un grand livre qui s'appelle Introduction à Jean-Sébastien Bach, qui est un traité général d'esthétique musicale, c'est un livre tout à fait remarquable. Il a écrit donc en 59, 15 ans plus tard, avec Marina Scriabine, un texte de réflexion sur la musique moderne, c'est-à-dire la musique qui était contemporaine dans les années 50. Bon. Et alors j'ai choisi ce texte parce qu'au fond nous sommes dans un théâtre. Et Boris de Scholzer et Marina Scriabine disent une chose tout à fait intéressante. Ils disent le temps de la musique n'est pas le temps du théâtre, n'est pas le temps de la pièce théâtrale. Quand une pièce théâtrale, quand une pièce commence, juste à côté, les spectateurs savent qu'il s'est passé toutes sortes de choses avant le début du drame, mais toutes ces choses qui sont passées avant le début du drame ne nous sont pas livrées. On va les inférer de certaines... remarques faites par les comédiens selon le principe de la double énonciation. Je te rappelle que va dire un personnage à autre personnage, c'est une manière d'apprendre la chose au spectateur qui n'en savait rien. Bon, et donc nous allons découvrir peu à peu pendant le spectacle toutes sortes d'événements qui se sont produits avant le début du spectacle. Bien. Bref, quand Antigone commence, il s'est passé plein de choses avant. Qu'il nous faudra deviner ou comprendre. Quand commence la 5e symphonie de Beethoven, il ne s'est rien passé avant. C'est un début absolu. Bon, et on n'a pas besoin au fur et à mesure que la symphonie se déroule, de se dire, ah ben, avant le pom-pom-pom-pom initial, il s'était passé d'autres choses qu'on nous avait cachées. Pas du tout. Et donc, il y a un incipit absolu en musique, alors qu'au théâtre, ou dans un roman, ou au cinéma, donc dans toutes les, ou à l'opéra, naturellement, puisque c'est du théâtre chanté, bien sûr. Donc, dans tout ce qui est dramatique, romanesque, il y a forcément des tas de choses qui se sont passées avant le début de la pièce, de l'œuvre qui nous est proposée. Voilà, c'est un autre rapport au temps.
Vous voulez lire ?
Je veux bien. Tandis que les 2 ou 3 heures que dure le spectacle au théâtre font surgir un passé et un avenir imaginaire illimité, dont le temps du drame n'est qu'un fragment, la demi-heure que nécessite l'exécution d'une sonate est une portion du temps réel, mais non une portion d'un temps musical qui précéderait et suivrait l'exécution. Le temps de la musique est clos. Il contient bien entendu un avant et un après, mais à l'intérieur de lui-même, entre des limites absolues. Dès le début de l'audition, nous bifurquons pour nous trouver dans un temps structuré autrement que celui de la vie réelle, et nous ne retombons dans ce dernier que l'œuvre achevée. Cette différence qualitative tient à ce que l'opération musicale, ainsi qu'il a été dit, n'a d'autre fin que sa propre réalisation. Ce geste se fait pour se faire et non pour faire ceci ou cela. Aussi le temps de la musique est-il le présent, un présent dynamique, en expansion, vécu en tant qu'engendrement de dépassement vert. C'est pourquoi l'intéressant n'est pas une catégorie musicale, alors qu'il est une catégorie littéraire. Dans la mesure où le spectateur est pris par le spectacle, ou le lecteur par le roman, il est avec les personnages en suspens, dans l'attente de ce qui va se produire et qui peut-être explicitera ce qu'il entend et voit. Le présent. Celui-ci, comme dans la vie réelle, étant toujours plus ou moins obscur, énigmatique, jusqu'à la conclusion arbitraire relative, car elle soulève de nouvelles interrogations. L'auditeur de l'opération musicale, lui, est pris par l'opération même, dont toutes les phases s'éclairent réciproquement, sans se demander où il va, le sens, dans les deux acceptions du terme, étant immanent à l'acte. S'il s'interroge, s'il attend curieusement ce qui va se passer, c'est que pour quelque raison qui tient à lui ou à ce qu'il entend, il n'écoute plus la musique et retombe dans le temps mondain.
Le temps mondain ?
Le temps du monde.
Et ça, c'est, vous percevez vous-même fortement, ben, comme mélomane et...
Ah, je crois que c'est vrai. Ouais. Et je crois que c'est vrai. Je pense que le commencement et la fin d'une pièce musicale, de musique instrumentale, hein, bien sûr, dès qu'il y a de la parole, dès qu'il y a du chant, dès qu'il y a du... il y a forcément quelque chose d'autre qui s'introduit. Mais dans la musique instrumentale, le début est absolu et la fin est absolue. Mmh. On ne se dit pas qu'est-ce qui va devenir après la fin de la symphonie. Mmh. Alors que quand on a terminé Emma Bovary, on se demande ce que Charles va devenir. Bon.
Mais en quoi ça crée une émotion particulière ou un affect spécial En quoi ça crée un affect particulier, justement, cette dimension-là en quoi ça vous semble remarquable au sens neutre du terme par rapport justement au fait d'aller au théâtre ou au cinéma?
Parce que le temps est complètement lui-même. Il n'est pas surdéterminé par l'intéressant. Je trouve très bien le mot qu'emploie Schlözer et Scriabine, intéressant. Intéressant, ça renvoie toujours à quelque chose de l'ordre, de l'attente, du suspense, du qu'est-ce qui va se passer, voilà. Et comment va vivre Bérénice après le hélas qui clôt la pièce de Racine. Bon. Enfin, comment vont vivre les trois. Bon. On n'en sait rien, on peut se le demander. Hein. Quand la symphonie est terminée, on ne demande plus rien. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une forme de temps, ce qui m'intéresse philosophiquement, parce que c'est qu'il y a une forme de temps qui est vraiment clos sur lui-même, mais qui n'est pas de l'éternité, qui est vraiment un temps qui passe, qui va de l'incipit à la fin du morceau, avec une très grande densité, mais ça commence net, ça se termine net.
Et en même temps, on peut être quand même habité pendant longtemps, après coup,
bien sûr. Tout ça. Donc ça bien, crée... ouais. Bien sûr, mais sans se demander qu'est-ce qui se passe après, puisqu'après il ne se passe rien.
Donc là, vous êtes presque dans une réflexion presque métaphysique, là, de sa manière un peu, non?
Oh, je ne sais pas, je veux le lire. Hein. Enfin, je ne sais pas si un métaphysicien serait
content.
Serait content, mais enfin bon, je veux bien.
Pourquoi pas? C'est intéressant parce que de ce point de vue-là, on sent qu'il y a quand même dans votre travail un paradoxe. c'est qu'à la fois vous êtes dans une très philosophique, en même temps sans, vous le dites un peu, enfin vous l'esquissez, c'est que justement votre travail n'est pas forcément extrêmement reçu facilement par les philosophes eux-mêmes, comme si votre réflexion les dérangeait ou les déstabilisait. Comment vous expliquez ce
non,
ce...
je dirais pas que je dérange les philosophes, mais les philosophes ont peut-être tendance ou à être vraiment dans une sorte de métaphysique a priori. Mm-hmm. C'est ce que font les philosophes de l'école analytique, que je respecte, plusieurs sont, sinon des amis, du moins des collègues avec qui j'ai de vraies discussions cordiales, hein, bon, mais qui sont dans une approche a priori des œuvres d'art.
Peut-être c'est important de préciser que l'analytique, parce que vous, c'est une évidence, mais peut-être pour beaucoup de gens aussi, c'est une tradition assez forte en France aujourd'hui.
Oui, l'esthétique analytique, ça consiste à partir de questions, par exemple, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Quelle est l'ontologie d'une œuvre d'art? Est-ce qu'un... Bon, un des grands hommes, c'est Nelson Goodman, dont le grand livre « Langage de l'art » a fait date, hein, en 1968. Et aujourd'hui, sur la musique, il y a des gens comme Stephen Davis, Peter Keevy, Gerald Levinson, Roger Pouivet en France, que j'évoquais tout à l'heure, qui s'inscrivent dans cette tradition analytique et qui se posent ce genre de questions du genre où est l'œuvre musicale, est-ce que c'est la partition, est-ce que c'est un objet intentionnel, est-ce que c'est une classe de correspondance, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les interprétations qu'on peut en donner, et est-ce que si je fais une fausse note, je peux dire que j'ai exécuté l'œuvre, en général ils répondent non. Parce que si j'ai fait une fausse note, l'œuvre n'a pas été exécutée, puisqu'il n'y a pas concordance entre ce qui est écrit et ce qui est joué. Bon, c'est des questions qui sont tout à fait intéressantes, hein, mais qui ne prennent pas appui dans la vie musicale. Je dirais, pour être beaucoup plus simple, que pour un philosophe analytique, je ne voudrais pas les caricaturer,
non, hein, non,
je
ne
vais pas me brouiller avec eux.
Mais, ils ne sont pas là.
Mais
bah, je ne crois pas.
Vous êtes diffusés. Pour un philosophe qui appartient au courant analytique et qui s'occupe d'esthétique, les œuvres d'art réelles sont des illustrations un peu contingentes. Alors que moi, c'est le point de départ de ma réflexion. Pour moi, il y a une différence très importante. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de musique, il n'y aurait pas de philosophe de la musique. Alors que certaines questions de la philosophie analytique continueraient à exister sur la musique, même s'il n'y avait pas de musique.
Mmh.
Voilà. Ben oui. Et donc je ne dis pas ça de manière moqueuse, hein, pas du tout, hein, mais c'est une approche très abstraite, très intéressante, qui pose des questions parfois un peu surprenantes et qui font du bien, ça fait réfléchir, hein, mais le fait qu'il y ait 12 000 instruments ou qu'il y en ait que deux, ça n'a strictement aucune importance pour eux. Alors que moi, le fait qu'il y ait 12 000 instruments, ben, je trouve ça capital, parce que ça veut dire quelque chose. Et ça nous rend quelque chose sur l'imaginaire musical, sur la vie musicale, sur la fantaisie sonore, sur toutes sortes de choses qui sont pour moi motrices dans la musique.
Mais du coup, est-ce que cette posture-là, enfin, ce regard-là, vous inscrirait par distinction dans une tradition plus pragmatique? Non, pas vraiment.
Vous savez, je ne me repère pas. Je ne cherche pas à jouer l'original à tout prix, c'est pas
non,
ça du tout.
Non, mais, vous êtes comme historien de la philosophie aussi, donc peut-être.
Je ne suis ni métaphysicien, ni phénoménologue, ni analytique, ni pragmatiste. Je ne suis rien. Bergson a écrit quelque part que pour beaucoup de philosophes, la philosophie consiste à s'inscrire dans un courant philosophique comme on prend sa carte dans un parti politique.
Mm-hmm.
Bon, c'est-à-dire qu'on considère que les réponses sont déjà données, mais il faut savoir lesquelles on choisit. Et lui protestait contre sa manière de voir les choses en disant à chaque problème nouveau, il faut une démarche nouvelle, il faut une méthode nouvelle, il faut une inventivité nouvelle. Et alors, s'il fallait absolument être quelque chose, je serais bergsonien, non pas tant dans le contenu de ses thèses que dans cette position consistant à se dire non, il n'y a pas de réponse déjà préexistante dans des écoles philosophiques déjà étiquetées. Hein, mais voilà.
Est-ce que ça veut dire qu'en creux, pour élargir le sujet, vous trouvez que précisément, par exemple, le paysage de la philosophie française aujourd'hui peut-être justement précisément trop clivé ou trop enfermé dans des familles un peu rigides, ou est-ce que vous trouvez que ça circule pas assez, ou comment vous voyez ça?
Si ça circule. Non, moi je me dis que certains types de problèmes qui m'intéressent en philosophie de l'art, hein, ne sont traités par personne. Et quand c'est traité, c'est un peu par la bande. Hein. voilà, des philosophes analytiques qui s'intéressent le plus à l'instrument, c'est Jerold Levinson, que je connais, quelqu'un de très bien, qui est lui-même musicien. L'instrument l'intéresse que très très latéralement et pas pour lui-même. Il est contextualiste, et donc contrairement aux anticontextualistes, pardon d'employer ces gros mots, mais il considère que la nature de l'instrument fait partie de l'œuvre musicale. Alors certains de ses collègues pensent que non. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces querelles. Donc, mais même sa manière de s'intéresser latéralement à l'instrument ne me satisfait pas du tout. Ouais. Je me dis le problème que pose à la philosophie l'instrument de musique, qui me paraît important, intéressant, n'est pas pris en compte par les écoles philosophiques esthétiques que je connais. Voilà.
D'accord. Il y avait un autre texte que vous, un peu différent, un peu décalé, que vous vouliez suggérer de lire, qui était un texte d'un romancier, Frank Conroy, Corps et âme. Je vais le lire si vous voulez, mais présentez-nous-le peut-être.
Oui, Corps et âme est un roman, donc Frank Conroy, traduit en français en 93. C'est un peu une success story d'un petit garçon qui s'appelle Claude, qui est très doué pour la musique, qui vit dans un milieu défavorisé. On est à New York dans les années 50, un peu avant peut-être même. Enfin bon, il se passe toutes sortes de choses tout à fait intéressantes. Bon, c'est un bon roman comme ça. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est au début, quand ce petit garçon qui doit avoir 6-7 ans découvre le piano, une sorte de piano de bar, sa mère est chauffeur de taxi, vous voyez le genre, bon. Un petit piano comme ça, sans prétention, et il est fasciné par les touches blanches et noires du piano. Bon, et puis en ouvrant un meuble qui est à côté ou dessus, je ne sais plus, il y a des pages étranges, c'est des partitions. Et il se dit brusquement qu'il y a peut-être un rapport, il a 6 ans, hein. il se dit brusquement qu'il y a peut-être un rapport entre les touches blanches et noires et les lignes du piano, des partitions. Et voilà, c'est ça le texte. Et okay. Là, je trouve que c'est fort.
Frank Conroy, le piano était une énigme. Pourquoi y avait-il des touches noires et pourquoi étaient-elles disposées ainsi par groupe de 2 et de 3? Comment se faisait-il lorsqu'on jouait les touches blanches de dos à dos, encore qu'il ne suit pas le nom des notes, ni même le fait qu'elles en eussent un, que cela sonnait juste, mais que si l'on jouait les touches blanches de mi à mi, cela sonnait faux? Il s'asseyait sur la banquette, jouait et rejouait la gamme de Do, une octave, deux octaves, montant, descendant, dans les graves et dans les aigus, en éprouvant un curieux sentiment de satisfaction. Le son même semblait l'envelopper d'une sorte de grande cape protectrice, l'enclore dans une bulle d'énergie invisible. Un jour qu'il s'amusait avec une seule note, la jouant tantôt fort, tantôt le plus doucement possible, tantôt quelque part au milieu, il se demanda soudain ce que contenait le piano. Il se mit debout et examina l'instrument. Il débarrassa le haut de la caisse des piles de vieux journaux, des fiches de taxi et des magazines qui l'encombraient, ouvrit le couvercle pivotant, plongea les yeux au fond. Impression de densité, d'ordre. Les cordes s'enfonçaient en oblique vers les ténèbres. Il tendit le bras et tourna le premier loquet de bois, puis le second, rattrapant de justesse le panneau revêtu du miroir qui recouvrait l'avant de la caisse, lorsqu'il tomba vers lui, par surprise. À présent, il pouvait voir les marteaux de feutre, les chevilles, les leviers, les minuscules lanières de cuir de la mécanique. Un mécanisme discontinu, extrêmement compliqué, avec des ressorts et des vis minuscules dont il ne devinait pas le rôle. Mais au bout d'un moment, appuyant tantôt fort, tantôt doucement, il finit par se faire une idée approximative de la façon dont l'ensemble fonctionnait. Fasciné, il appuya sur les touches les unes après les autres. Il effleura les cordes et les sentit vibrer. Dans le tiroir de la banquette, il trouva des partitions. Les lignes et les symboles mystérieux étaient empreints d'une netteté qui évoquait l'intérieur du piano. Il y avait une relation, sûrement, et il savait où aller pour trouver exactement laquelle.
Et il va se mettre à apprendre le piano.
Ouais. C'est comme ça que vous avez découvert le piano vous-même? Non.
Oui, il y avait un piano à la maison, et on faisait du piano.
D'ailleurs, je détourne un peu, mais est-ce que vous vous intéressez à la sociologie même des instrumentistes même, c'est-à-dire que finalement qui joue comment, quels sont les mécanismes comme ça d'identification comme ça à cet horizon-là professionnel où on connaît ça un peu?
Oui, un petit peu. Pierre-Michel Menger a écrit Le paradoxe du musicien. Mmh. Il y a d'autres études. Je le connais d'un peu loin. Ça m'intéresse. Voilà. Ouais. J'en parle un tout petit peu dans le livre sous le titre La société des instrumentistes. Mais je ne suis pas très savant là-dessus.
Voilà. Donc, mais alors, si la dimension sociologique est absente, est-ce que la dimension historique n'est pas aussi... Parce que je voulais aussi me demander quand même finalement dans la réflexion sur l'instrument de musique, est-ce qu'on pourrait aussi historiser un peu l'usage de l'instrument qui est fait. Est-ce que finalement, j'ai l'impression que cette dimension-là est assez discrète dans le livre. Ouais. Est-ce que par exemple, je ne sais pas, jouer du violon en 1800, est-ce que ça a le même sens qu'aujourd'hui par exemple?
Ah, il y a une dimension historique. Ouais. Dans un chapitre de la troisième partie, sur le terrain de l'histoire, il y a une dimension historique. C'est plus l'histoire des instruments que l'histoire
des usages.
Des usages qui m'intéressent. Enfin, tout m'intéresse, mais je brasse pas mal de matière. Et puis, je dirais, il y a des historiens. Encore une fois, les philosophes sont assez muets sur la musique. Mais il y a une littérature considérable sur les instruments de musique. Hein. Attention, vous allez, par exemple, à la médiathèque de la Cité de la Musique à Paris, vous pouvez passer votre vie à lire les ouvrages considérables qui sont consacrés exclusivement au piano, au violon, à la clarinette entre 1800 et 1850. Vous avez des bibliothèques entières d'histoire de l'instrument, voire d'histoire des usages. Ce sont les philosophes qui ne se sont pas emparés de cet immense chantier. Mais les musicologues, les historiens, il y a une excellente revue, Histoire musique-instrument, qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant en France. Il y a des revues allemandes, italiennes, anglaises. Il y a beaucoup de données factuelles dont je ne connais qu'une toute petite partie et dont de toute façon la masse est tellement considérable que même les spécialistes, par définition, connaissent une partie. Et quelqu'un qui travaille sur, l'histoire de l'usage du clavecin au XVIIe et XVIIIe siècle, il ne saura pas comment on servait de la harpe au XIXe, parce que c'est un autre objet d'étude, vous voyez.
Voilà. La musicologie, en quoi elle est intéressante pour vous? En quoi ce savoir, peut-être d'ailleurs, ce serait intéressant, parce que peut-être c'est pas tellement connu par beaucoup de gens. La musicologie, c'est une discipline assez peu connue du grand public, parce qu'on arrive du mal à identifier ses fondements théoriques. On devient musicologue comment? Quels sont les...
Ça, je ne suis pas musicologue.
Non, je sais, c'est pour ça. Mais vous vous y intéressez quand même.
Ah oui, bien sûr, je m'y intéresse. La musicologie rend tout plus compliqué, et c'est sa grande vertu. Voilà. C'est-à-dire, on croit que les choses sont simples. On a une vue un peu naïve, un peu sentimentale, un peu scolaire, un peu bon. Et le musicologue vient vous dire, pas du tout, il y a ça. Déjà, le musicologue vous explique que les partitions ont rarement un statut d'autorité incontestable. On découvre que l'établissement philologique d'une partition est aussi compliqué que l'établissement philologique d'une tragédie antique. Bon, même pour Wagner, même pour des musiques qui sont proches de nous, je ne parle pas des musiques de la Renaissance. Déjà, le musicologue va vous expliquer ça. Le musicologue va vous expliquer que les pratiques sociales pèsent beaucoup plus qu'on ne croit d'ordinaire dans l'écriture musicale, dans l'interprétation musicale. Le musicologue va donc historiciser, socialiser, enfin inscrire dans le temps, inscrire dans l'histoire, inscrire dans la société les œuvres. Et puis le musicologue aura aussi évidemment une analyse technique
de l'œuvre elle-même.
De l'œuvre elle-même, bien sûr. Et donc, il exerce une pression cognitive sur le philosophe qui a tendance à généraliser beaucoup trop vite dans le domaine des arts. Je dirais la même chose d'ailleurs. Des historiens de l'art, c'est-à-dire des arts plastiques, par rapport aux philosophes des arts plastiques. Donc, c'est le même type de choses. L'historien, d'une manière générale, l'historien, d'une manière générale, vient complexifier, compliquer, et c'est très heureux, la conception que le philosophe... On pourrait sans doute dire la même chose, d'ailleurs, d'un philosophe politique par rapport à un historien de la politique. L'historien viendra dire... c'est beaucoup plus compliqué, il y a des rapports de force, il y a des traditions, il y a des... Et à un moment, le philosophe de dire aussi, j'ai mes droits en tant que philosophe. Le philosophe n'a pas à obéir à l'historien non plus, enfin, ni l'inverse. Le philosophe a aussi pose des questions qui sont les siennes.
Sur quoi vous êtes un philosophe absolu.
Oui, enfin, absolu, je ne sais pas, mais je pense... voilà. Le philosophe de l'art est toujours en situation un peu fâcheuse. Il est en situation un peu fâcheuse parce qu'il est forcément derrière les artistes. Encore une fois, s'il n'y a pas de mention artistique, il n'y aura pas de philosophe de l'art. Mais il est aussi à côté, non pas derrière ou après, mais à côté des praticiens de la musique. Ici, le luthier, l'instrumentiste, le compositeur, le chef d'orchestre, l'organisateur de concerts, etc., etc. Enfin bon, toute la masse de personnes qui sont nécessaires pour ce type d'œuvre musicale. Donc il est après l'artiste, il est à côté. Bon. Mais en même temps, il a ces questions à lui, qui parfois viennent des œuvres, mais qui parfois viennent de tout à fait ailleurs. C'est là où les philosophes analytiques ont le droit de poser des questions qui viennent de la métaphysique, du genre qu'est-ce qu'un objet comme une symphonie ? Quel type d'objet est-ce que c'est ? Une question qui n'intéresse pas du tout le musicien, mais qui est légitime en elle-même. Et donc le philosophe de l'art est toujours un petit peu coincé, parce que d'un côté il est dépendant de toutes sortes d'inventions et de théories inventées par les artistes, ou, enfin, au sens large du terme, et de l'autre, il a aussi la légitimité d'un type de questionnement qui n'est pas du tout celui des artistes. Et il doit se méfier en plus du discours des artistes.
En quel sens ?
Bah parce que les artistes ont toujours, sur leur propre pratique, des théories qui peuvent être extrêmement intéressantes et qui peuvent être complètement creuses aussi. C'est aussi vrai dans le monde du théâtre. Bon, je veux dire, ce que dit un metteur en scène ou sa mise en scène est très intéressant, mais c'est pas la vérité, il faut tenir ça à distance. Ce que dit un créateur sur sa création, ce que dit un compositeur sur sa composition, ce que dit un musicien sur sa manière de jouer, est un élément très intéressant pour le philosophe, mais auquel il ne doit surtout pas souscrire, par principe, il doit tenir ça à distance.
À distance, mais le retransformer
Pas forcément, éventuellement dire le contraire. Ouais. Mais s'il a de bonnes raisons.
Ce serait quoi des bonnes raisons en l'occurrence ?
Déjà, prendre la mesure de ce qu'il peut y avoir d'auto-justification dans l'histoire de l'artiste.
Ouais, mais
forcément, un artiste a besoin de justifier ses pratiques. C'est compliqué d'être artiste, c'est compliqué.
Justifier, en tout cas, l'éclairer, au moins, c'est ce qu'on lui demande souvent. C'est compliqué.
Beaucoup de discussions avec pas mal de monde dans le domaine du théâtre et de la musique me fait penser qu'il y a quand même beaucoup de nécessités que je comprends, mais de justification à ses propres yeux. Je ne veux pas faire de la psychologie facile,
mais
l'artiste a assez souvent besoin de tenir un discours qui verrouille ses propres doutes par rapport à ce qu'il fait.
Parfois, c'est une manière aussi de les reconnaître aussi, les doutes. Précisément, parfois, le travail créateur, parfois, c'est souvent ça quand même.
Oui, bien sûr. Bien
sûr. Souvent, les artistes sont parfois plus intéressants à écouter qu'à regarder, leurs œuvres, ça arrive souvent.
Dans certains secteurs de l'art contemporain, sans doute, je pense que ce n'était pas vrai avant le 19e siècle, le 20e siècle.
Ah oui, vous mettez ça, vous associez ça à la postmodernité presque, au fait que...
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'inflation du discours d'artiste depuis un siècle, dans les arts plastiques, dans la littérature et aussi dans la musique.
Qui vous semble un peu trop...
Non, ça me semble pas trop, ça me semble différent de ce... Ouais. Je pense que l'état de la musique actuelle, comme l'état de certains arts plastiques, comme l'état du théâtre peut-être, fait qu'il y a une place plus importante qui est donnée au discours de l'artiste qui vient commenter sa propre œuvre, de telle sorte que parfois ça devient un élément de l'œuvre, même parfois.
Est-ce que dans la musique c'est aussi fortement marqué que dans le théâtre, ou le cinéma, ou la littérature par exemple, qui sont des arts plus où, par définition, la parole est quand même souvent beaucoup plus convoquée ? Je connais moins, donc
je trouve que depuis Wagner, oui, quand même.
Ouais.
Que depuis Wagner, le musicien, très souvent, commande, présente, explique son œuvre, ça marche comme ça, j'ai voulu faire ça, voyez bien qu'ici il y a un écho, voyez bien qu'ici il y a ceci, il y a cela, oui, quand même.
Et pourquoi Wagner aurait été un point de rupture ?
Parce que Wagner est un militant. Parce que Wagner est un militant, la musique de l'avenir, des musiques de la Zukunft, parce qu'il veut théoriser sa musique, vaut pour une sorte de philosophie générale de l'univers, du monde, de la société, etc. Et que donc, il y a la musique, mais il y a aussi la signification qu'elle a et qu'il commente. Pas mesure par mesure, bien sûr, mais c'est pour ça que je prends Wagner. Prendre autre exemple, mais Bach ou même Beethoven n'ont jamais éprouvé le besoin d'expliquer pourquoi ils écrivaient ce qu'ils écrivaient.
Ils disaient rien.
Il n'y a pas de discours d'artiste, il y a pas de, on peut trouver de temps en temps un texte, une lettre, une correspondance, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout.
Wagner appartient au moment où...
Wagner, Berlioz aussi d'ailleurs, dans un genre très très différent, Berlioz également, a beaucoup commenté sa propre musique. Donc Berlioz, Wagner, milieu du 19e siècle, en gros, est quand même un moment où le musicien va éprouver le besoin de commenter de commenter sa propre musique. Voilà.
Est-ce qu'on est
pas ses commentaires sont très intéressants. Je veux simplement dire une chose très simple, c'est que je ne les prends pas pour argent comptant.
D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait qu'on est là pour faire plus de l'histoire sociologique et on n'est pas un peu dans un moment d'autonomisation d'un champ esthétique?
Oui, c'est vrai.
Et d'une certaine manière, même justement d'une prise de parole comme ça, de critique théorique sur sa propre... C'est ses propres œuvres. Donc, ils sont aussi les produits de leur époque, enfin, d'une certaine manière.
Bien sûr. Mais le philosophe de l'art est parfois un peu fasciné par le discours de l'artiste, parce que, au fond, le philosophe de l'art n'est pas un artiste. Bon. Et moi, ça ne me pose aucun problème. Mais certains philosophes de l'art sont un peu fascinés par le fait que les artistes ont un type de puissance créatrice que eux, philosophes, n'ont pas. Si en plus l'artiste se mêle de théoriser son propre discours, il déborde le philosophe de l'art des deux côtés. En amont, parce que lui, il crée de l'œuvre d'art, et en aval, parce qu'en plus, il les commente. Et donc, le philosophe peut se sentir un peu coincé. Il pourra, dans certains cas, avoir tendance à ratifier ou à donner trop d'importance au discours de l'artiste. Donc moi, j'ai une saine prudence méthodologique. Les discours d'artistes, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Les textes d'artistes, les discours d'artistes, les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Il y a plein d'idées vraies, il y a plein de choses à piocher, etc. Mais je veux simplement dire, mon discours est hétérogène à celui-là. Il est d'une autre nature. Il obéit à d'autres canons, qui sont d'autres critères de validation, qui sont ceux de la philosophie. Et je prends comme un document, voilà. Je prends les discours d'artistes comme un document. Et comme un document passionnant, mais comme un document. Qui est d'une autre nature qu'une théorie. Et un philosophe, un artiste qui devient vraiment philosophe, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y en ait.
Ouais.
Il serait, je crois que c'est des positions qui ne sont pas les mêmes. Voilà.
La réflexion que vous avez comme ça en esthétique et disons sur la question d'instrument de musique, par exemple, va forcément vous emmener vers d'autres horizons, d'autres champs comme ça, qui pourraient être une manière d'élargir aussi la connaissance de la musique.
Je ne sais pas encore. Si je suis bergsonien, je vous le dirai quand je l'aurai fait.
D'accord. Mais par exemple, un travail comme celui-là, c'est un travail juste pour sans être trop curieux, c'est qui demande beaucoup d'années de travail. Enfin, c'est un gros travail de mise en forme comme ça d'une réflexion.
Oui.
C'est
difficile à dire parce que je pense à certaines des idées qui sont dans le livre, je les ai depuis 10 ans, d'autres je les ai peut-être trouvées cet été en terminant le livre. C'est difficile à dire, mais oui, je dirais qu'il y a quand même une réflexion d'une dizaine d'années, si ce n'est plus.
D'accord.
Mais qui c'est un moment qui s'est vraiment déclenché, au sens où je me suis dit, bon, j'y vais. Voilà.
Alors, puisqu'on parle de philosophie, peut-être vous aviez envie d'en citer un magnifique, qui est Montaigne. Pourquoi Montaigne avec l'instrument de musique? A priori, le lien n'est pas évident.
Il n'y en a aucun.
Il n'y en a aucun. Alors expliquez-nous pourquoi.
Il n'y en a aucun. Montaigne ne s'intéressait pas à la musique. Mm-hmm. Il y a dans les essais 2-3 petits passages vraiment pas intéressants.
Ouais.
Bon, voilà, ça ne l'intéressait pas. En revanche, Montaigne s'intéressait beaucoup au temps. Et une des choses qui m'intéresse, c'est le rapport entre le temps musical, donc clos comme ça, entre un début et une fin absolue, et puis le temps de la vie, enfin, le temps. Quoi. Bon. Et Montaigne a toute sa vie réfléchi sur le temps. Et voilà pourquoi j'avais envie de proposer un texte.
Oui,
un texte de Montaigne.
C'est une manière d'élargir un peu.
Qui est tout à fait à la fin du traité de l'expérience. Et c'est vraiment presque les dernières pages des essais. Et c'est un texte que je trouve fort. J'ai un dictionnaire tout à part moi. Je passe le temps quand il est mauvais et incommode. Quand il est bon, je ne le veux pas passer. Je le retâte, je m'y tiens. Il faut courir le mauvais et se rasseoir au bon. Cette phrase ordinaire de passe-temps et de passer le temps représente l'usage de ces prudentes gens qui ne pensent point avoir meilleur compte de leur vie que de la couler et échapper, de la passer, gauchir et autant qu'il est en eux, ignorer et fuir comme chose de qualité ennuyeuse et dédaignable. Mais je la connais autre. Et la trouve éprisable et commode, voire en son dernier décours où je la tiens. Et nous, la nature, mise en main, garnie de telles circonstances et si favorables, que nous n'avons à nous plaindre qu'à nous, si elle nous presse et si elle nous échappe inutilement. Stulti vita ingrata est, trepida est, tota in futurum fertur. La vie de l'insensé est sans joie, elle est agitée, elle se porte tout entière dans l'avenir. C'est une citation de Sénèque. Je me compose pourtant à la perdre sans regret. Là, c'est la vie. Hein. Je me compose pourtant à la perdre sans regret, mais comme perdable de sa condition, non comme moleste et importune. Aussi ne sied-il proprement bien de ne se déplaire à mourir qu'à ceux qui se plaisent à vivre. Il y a du ménage à la jouir. Je la jouis au double des autres, car la mesure en la jouissance dépend du plus ou moins d'application que nous y prêtons. Principalement à cette heure, que j'aperçois la mienne si brève en temps, je la veux étendre en poids. Je veux arrêter la promptitude de sa fuite par la promptitude de ma saisie, et par la vigueur de l'usage, compenser la hâtivité de son écoulement. À mesure que la possession du vivre est plus courte, il me la faut rendre plus profonde et plus pleine.
Bon.
Bah, qu'est-ce qu'on dit après Montaigne ?
Pardon ?
Qu'est-ce qu'on dit après ça ?
Ben, on le relit et puis on vit en conséquence. C'est-à-dire que passer le temps, c'est une absurdité. Passer le temps, c'est... Bon, la seule chose qu'on ne peut pas produire, comme dit Sénèque dans le De Vita Beata, pardon, les gens répugnent à donner de l'argent alors qu'on peut toujours en récupérer quand même, bon, par divers moyens, alors que les gens n'hésitent pas à donner leur temps alors qu'on ne peut pas le récupérer. Et donc, il faudrait être très prodigue de son argent et plutôt ménager de son temps, dit Sénèque. Alors, bon, ça c'est le rapport à autrui. Le rapport à soi... dont nous parle ici Montaigne, hein, du rapport à soi, c'est que le temps dont nous disposons, il coule, il file, et puis Montaigne dit qu'il est à la fin de sa vie, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, au moment où il écrit ce texte, et donc en son dernier décours, hein, c'est ça que ça veut dire, moment de ma vie où j'arrive vers la fin, dit Montaigne, et je vais compenser la, je trouve ça tout à fait étonnant, hein, je vais compenser la hâtivité de l'écoulement du temps par la promptitude de ma saisie, la manière de m'emparer du temps. Je vais comme ça démultiplier la puissance. C'est une sorte de saisie du présent dans toute son intensité. Pas question de passer le temps, non. Au contraire, s'en saisir et le vivre à plein. Et Montaigne ne s'intéressait pas à la musique, mais la musique peut-être nous apprendre en jouant, en écoutant, une manière précisément de saisie prompte de quelque chose qui passe.
De la densifier, de la remplir.
La densifier. Et le musicien qui joue un très difficile, qui le répète même d'ailleurs, qui le joue, il est dans cette situation de saisir avec une sorte de vigueur exceptionnelle quelque chose qui va passer très vite.
Vous avez la sensation d'être un peu proche de Montaigne quand vous écoutez parfois des concerts?
Oui. Je ne pense pas à Montaigne, mais je pense que c'est une expérience qui a un rapport avec celle que Montaigne nous incite à vivre.
C'est une expérience esthétique de plénitude.
Oui. Oui.
Bon. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus.
C'est vous qui décidez.
Provision. Moi, je trouve ça bien.
C'est vous qui décidez.
Merci beaucoup, Bernard Sèvres. Et donc, votre livre sort là ces jours-ci, je crois.
Je crois aujourd'hui même.
Aujourd'hui même, oui, voilà. Voilà, donc l'instrument de musique au seuil, l'ordre philosophique, très belle collection. Merci beaucoup.
Merci pour
Il y a le salon du livre, si vous voulez y aller, il faut y aller maintenant, parce que c'est l'inauguration ce soir. Et moi, j'y vais. Voilà. Merci infiniment.
Merci.
Il est très beau, ce texte.
Oui.